Salut, c'est Déborah Grunewald, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez envie de vous détendre, que vous avez le temps pour ça, sinon va falloir le prendre. Oui, on va se poser tranquillement et partir en balade pendant une heure avec ce podcast dans le rétro. On va se télétransporter au fil des époques et au rythme des souvenirs de notre invité. Nouvel épisode avec cette fois un auteur exigeant, aimant et exaltant. C'est un emmerdeur élégant, il excelle dans le tragique comme dans le vaudeville, virtuose de la comédie. Il a du chien, comme on dit. Mon invité, c'est Pierre Arditi, passé, présent, futur. C'est parti, on vous embarque pour un voyage dans le temps. Bonjour Pierrot, je me permets pour les intimes, il paraît, pour ceux qui vous aiment.
Les gens que j'aime m'appellent comme ça.
Vous avez pris un char à connard pour venir jusqu'ici ou pas?
Ah non, pas du tout. Non, je prends des motos pilotées par quelqu'un d'autre que moi, parce que sinon je me tuerais tout de suite, ou des taxis, j'ai plus de voiture, c'est fini ça.
Char à connard, c'est comme ça que vous appelez les trottinettes dans la pièce Fallait pas le dire en ce moment au Théâtre de la Renaissance à Paris, avec Evelyne Bouix, votre femme à la ville et sur scène. Je peux vous dire quelque chose?
Oui.
Je vous ai trouvé super beau tous les deux sur scène.
Ouais, on est très contents. Ce qu'a écrit cette petite que nous connaissons bien nous rajeunit.
Salomé, votre belle-fille. Alors après cette pièce, on a envie d'aller se faire une bouffe avec vous carrément et de parler justement de tous ces sujets abordés dans la pièce. On est embarqué dans vos engueulades de couple, dans vos échanges, vos débats sur plein de sujets différents. Le militantisme, la GPA, l'environnement, le sexe, la politique, le genre, les relations hommes-femmes. C'est terriblement inspirant, ça.
C'est très inspirant, c'est surtout très inspiré, parce qu'elle est très brillante, la petite Salomé. Ça nous amuse beaucoup. Alors, elle nous a piqué beaucoup de choses, elle nous connaît bien, parce que nous l'avons élevée l'un et l'autre. Et puis, il y a d'autres choses qu'elle a envie de dire elle-même, et elle se sert de nous comme vecteur de transmission de ce qu'elle pense.
Qu'est-ce qu'elle vous a piqué?
Moi, elle m'a piqué, par exemple, le discours sur la gauche. Bon, elle m'a piqué le discours sur le... Pas le gâteau de ma mère, parce que c'est une histoire vraie, d'ailleurs, mais qui est arrivée à son chéri. Alors, pas... Et c'est elle qui a dit que le gâteau était pas très bon, tout comme ça, à sa belle-mère. Qu'est-ce qu'elle m'a piqué? Elle a piqué la chirurgie esthétique pour sa mère. Elle nous a aussi piqué un état d'esprit qui est le nôtre et qui sert son propos. Quoi.
Alors effectivement, quand on en parle là, il faut avoir vu la pièce pour comprendre toutes ces petites étapes en fait dont vous parlez, le gâteau, la gauche, etc. En fait, cette pièce, elle est faite de petites scénettes avec des thématiques à chaque fois différentes. Oui. Sur tous ces thèmes, le personnage ne cherche pas à convaincre, mais plus à désamorcer des sujets souvent sensibles. En fait, on ne sort pas de cette pièce en se disant « je suis pour, je suis contre ».
Non, c'est pas manichéen.
Ce qui est très étonnant sur des sujets tels que la GPA, le genre, etc. Quoi.
La mauvaise foi change de camp. D'ailleurs, tantôt c'est la femme qui l'a, tantôt c'est le mec qui fout tout sous le tapis pour pas savoir qu'à un moment donné il charrie un petit peu. Voilà, c'est une espèce de voyage au pays de ce qu'elle pense elle et de ce qu'on pense un peu nous. Chacun avec ses travers, ses défauts, son charme, encore une fois la mauvaise foi qui est partagée, et puis ce besoin de traverser la vie en se frittant probablement de temps en temps, mais finalement en se retrouvant et en s'aimant.
Mais c'est bien de se friter de temps en temps.
Mais c'est capital. C'est capital. Ouais. On n'est pas né pour dormir, on est né pour vivre. Et vivre, c'est musclé. Ça muscle en même temps, faut que ça reste bienveillant.
Pierre Arditi, vous n'êtes pas un homme modéré. Vous dites les choses. Vous pouvez être en colère, agacé. Ouais. Vous êtes profondément ancré dans le monde d'aujourd'hui, avec ses limites, ses excès. Ouais. Si on s'en tient au sujet abordé dans la pièce, qu'est-ce qui vous agace ou qui vous révolte aujourd'hui?
Il y a des choses qui me révoltent, elles m'agacent, il y a des tics de langage générationnels. Si vous retirez, par exemple, de la langue française « du coup », je me demande comment on peut arriver à fabriquer une phrase maintenant. Il y a du coup toutes les 20 heures.
Je suis dans la merde, j'arrête pas de le dire.
Oui, bah bien sûr, oui, c'est normal, c'est générationnel. Coup, c'est... On en a eu, nous, des tics de génération aussi. Moi, maintenant, je suis un vieux con, alors j'ai le droit de critiquer ce que les jeunes cons pratiquent à longueur de journée. Non, du coup, ça me tue, j'en ai marre, mais bon, c'est pas grave. Il y a des choses qui me révoltent. Vous voyez, par exemple, ce matin, je me disais, mais les choses qui m'agacent, par exemple, puisque moi, j'ai une sensibilité d'homme de gauche, il n'y a rien à faire, comme le dit d'ailleurs très bien ma chère camarade Salomé Lelouch, j'ai une mentalité d'homme de gauche, même quand je vote à droite, ce qui m'est arrivé, comme pas mal de gens de gauche en 2002, voilà, bon. Et ce qui m'agace, par exemple, c'est que pour un type qui est issu de cette sensibilité politique-là, je ne comprends pas, ça me désole, ça m'afflige, ça m'attriste, comment la gauche en est arrivée là aujourd'hui. Depuis que j'ai 18 ans, j'ai cette sensibilité politique-là, j'ai connu une gauche clairvoyante, courageuse, créatrice, parfois se trompant, personne n'a toujours raison, mais avec des choses promises, entreprises et tenues. Là, la première des promesses qui ne tiennent pas, c'est le fait de se rassembler.
C'est quand même extravagant.
Mais elle n'est pas divisée, elle est en décomposition. Je peux pas croire ça. Il y avait des voix que j'entendais encore il y a pas longtemps, qui tout d'un coup ont disparu de la circulation, je ne sais plus où elles sont.
Vous pensez à qui ?
Je sais pas. Alors Bernard Cazeneuve, par exemple, qui est un homme de raison, qui est un homme, un honnête homme, qui est un homme de conviction, qui est totalement infiniment respectable. Védrine, bon, alors je crois que lui, il est fatigué, il a plus envie de faire de la politique, mais il a été un très grand ministre des Affaires étrangères. Enfin, où sont les remplaçants de ces gens-là ? Je ne peux pas croire que les candidats aujourd'hui, les candidats dits de gauche, n'arrivent pas à se retrouver sur un certain nombre de points qui sont ce à quoi ils croient eux-mêmes. Donc on assiste à un festival d'égotisme qui est insupportable. Et pendant tout ce temps-là, les autres, les pauvres, les mecs qui ont des paquets dans les gares et qui n'arrivent plus à croûter parce que tout d'un coup ça coûte tellement cher la vie qu'à un moment donné, on leur dit « Ah c'est merveilleux, l'emploi recommence, oui l'emploi recommence, mais pour faire quoi exactement ? Pour gagner quoi ? Travailler, c'est un honneur, mais c'est aussi un honneur qui permet de vivre. Aujourd'hui, c'est plus un honneur et ça ne permet plus de vivre. Alors c'est quoi l'histoire ? À quel moment on règle ce problème-là ? À force de créer, je m'énerve là, mais c'est normal, je suis là pour ça. À force de traiter les urgences aux dépens de l'essentiel, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que d'assurer une éducation des enfants, ce qu'on appelle l'éducation nationale, une éducation nationale qui répond à tout ce dont elle a besoin. Ça va fabriquer les femmes et les hommes de demain. Il n'y a rien de plus important que ça. Qu'est-ce qui va être plus important que de sauver l'hôpital public qui est à l'aube du naufrage parce qu'il y a 3500 personnes sur 67 millions qui sont en réanimation d'urgence. C'est pas possible. On n'est pas au Moyen-Âge, là. Ça aussi, ça se règle. C'est pas récent. C'est ça qui compte. C'est pas la compétitivité de ceci, de cela, de pas ci, de pas ça. La politique, c'est important parce que ça définit la vie et la mort des femmes et des hommes. Donc il n'y a rien de plus important de faire que les hommes et les femmes vivent mieux.
Donc là, on va crever alors ?
Non, on va pas crever parce que ça va
là,
forcer.
Là, on va devoir, on va voter dans quelques temps, on va avoir le pouvoir de décider qui va mettre son grain de sel dans tout ce bordel.
On peut avec ce qu'il y a. Voilà. On va faire comme on peut avec ce qu'il y a. Je ne rentrerai pas dans le détail. D'ailleurs, je n'ai pas de leçon de morale à donner à qui que ce soit. Élection piège à con, ça veut rien dire. Abstention piège à con, sûrement. Chacun vote qui il veut, pour qui il veut, pour qui il peut. Moi, j'ai rien à cacher, mais ça me désespère de voir qu'une partie de cette classe politique que je défends malgré tout, parce qu'on sait ce que c'est que les pays où la classe politique n'existe pas. Ça s'appelle une dictature, contrairement à ce qu'on croit et à ce que veulent nous faire croire certaines catégories de gens. La France n'est pas une dictature, bien au contraire. Encore une fois, il n'y a rien de plus important de faire que les femmes et les hommes qui composent ce peuple aillent mieux, pour ne pas dire bien.
La politique.
Je l'ai fait dire, celle-là, je n'ai plus de souffle. Au secours, au secours.
C'est plus fatigant que sur scène ou pas ?
C'est surtout plus grave que sur scène. Sur scène, je peux déconner, là, c'est pas tellement déconnant.
On va revenir sur la pièce.
Oui, soyons plus légers, j'ai fait maintenant.
Non, mais vous parlez de politique en plus sur la pièce.
Ouais.
Fallait pas le dire, donc c'est une pièce de Salomé Lelouch, votre belle-fille, au passage. C'est super bien écrit. Il y a des punchlines même qu'on pourrait carrément reprendre dans la vie de tous les jours.
Par exemple, qu'est-ce que vous appelez des punchlines ?
Des punchlines, c'est-à-dire qu'il y a des petites phrases comme ça qu'on pourrait ressortir.
Phrases, donc, oui,
ah
ça.
Oui, des petites phrases.
Oui, d'accord.
Courte, efficace. Phrases, voilà. Courte, efficace.
Je ne sais pas ce que c'est.
C'est anglicisme.
Je suis un vieillard. Voilà. Alors, donc, si vous voulez.
Qu'est-ce que Salomé a de plus que les autres ou qu'est-ce qu'elle peut amener de plus par rapport aux autres, de par sa place justement de belle-fille ?
C'est très pervers ce qu'elle apporte. Elle nous connaît bien, c'est nous qui l'avons élevée. Elle ne nous doit rien en dehors du fait d'avoir été élevée à peu près dans la tranquillité de ce qu'elle devait être. Ce qu'elle amène, c'est qu'elle a un regard acéré sur le monde dans lequel elle vit. Il y a à la fois un fond, un propos, ouais. Une forme absolument
magnifique.
Formidable. Qu'est-ce qu'elle amène ? Elle amène encore une fois un regard très personnel, parfaitement iconoclaste. Et cette chose que j'aime moi, parce que j'ai un morceau de vie derrière moi, elle ne se contente pas de dire d'une manière naturaliste ce qu'elle voit du monde, elle le triture, elle le triposte, et elle en fait quelque chose qui n'est plus réaliste et qui pourtant dit ce que nous sommes.
Fallait pas le dire, signé Salomé Lelouch au Théâtre de la Renaissance à Paris, c'est avec Pierre Arditi et Evelyne Bouix. En toute franchise, c'est une pièce vraiment qui déchire, vraiment. C'est drôle, intelligent, dans l'air du temps, les sujets abordés divisent la société, mais nous rassemblent le temps du spectacle. Les personnages ne sont pas là pour convaincre ou nous opposer les uns les autres, mais pour nous faire réfléchir. Et marrer aussi. La pièce joue les prolongations et on comprend pourquoi. Pierre Arditi, on va commencer notre voyage dans le temps.
Aïe, aïe, aïe.
A tout de suite sur France Bleu.
France Bleu remonte le temps, c'est dans le rétro.
Bah faites pas cette tête.
Si, là vous remontez, alors allons-y. Alors mais on va mettre notre casque de spéléologue et puis on va aller.
Eh ben on y
alors,
va.
Je ne suis pas l'homo sapiens dont on a découvert que finalement.
C'est parti.
Thank you.
à Paris. Georges, votre père est peintre, votre mère Yvonne, elle bosse ou pas ?
Elle est femme de peintre et quand on est la femme de mon père, c'est un sacré boulot.
C'est du taf. L'homme dans votre famille occupe une place importante. Vous parlez de supériorité même.
Oui, bah c'est les anciennes générations. La femme qui était très aimée à l'époque, mais c'est la femme. Le mâle, l'homme, là, c'est forcément la personne importante et l'enfant que je suis, donc c'est-à-dire l'homme que je vais devenir, par rapport à ma petite sœur qui n'est qu'une fille, et ben dans ma famille qui est en partie juive et en partie belge, bon, c'est un peu, le garçon est la personne importante de la famille. Jamais dans ma famille à moi. Hein, mon père et ma mère nous ont toujours traités à égalité l'un et l'autre. Mais dans ma grand-mère, mes grands-parents, ça, c'était le garçon.
Le mâle, quoi.
Oui, c'est le garçon, quoi. C'est celui.
La virilité.
La fille, c'est très bien, elle va jouer à la poupée, elle fera la vaisselle, et puis voilà. Bon,
mais vous rendez compte de ce que vous dites aujourd'hui?
Mais je le dis parce que c'était la vérité à cette époque-là. Ouais, il faut le savoir. Vous avez fait beaucoup de chemin, les femmes, et heureusement d'ailleurs, moi je leur dois tout aux femmes, donc je suis un défenseur violent de ce sexe que j'aime et qui m'a toujours mis en face de ce que j'étais et surtout de ce que je n'étais pas.
Il y a donc Georges, votre père, et il y a votre mère, télétransportation. Nous sommes chez vous, vous êtes encore enfant, votre mère est là, elle vous regarde et vous dit « tu seras un homme ». Tu apprendras à pleurer parce que les hommes qui ne pleurent pas, ce ne sont pas des hommes.
Oui, parce que je pleurais, je ne sais plus très bien pourquoi d'ailleurs. Et j'avais toujours entendu dire qu'un garçon, ça ne pleure pas. On laisse ça aux filles, bien sûr. Et ma mère a dit, n'écoute pas ce discours d'imbécile. Un homme digne de ce nom, ça pleure. Ça pleure parce que ça prouve qu'il est attaché à des choses et que quand elles le quittent ou quand elles le déçoivent, eh bien, il pleure parce qu'il souffre. C'est ça être un homme, voilà. Et ce n'est pas réservé aux filles. Les hommes qui ne pleurent pas sont des... Je ne sais plus ce qu'il avait dit à l'époque, ce sont des crétins, je ne sais pas quoi. Enfin bon, peu importe. Elle avait raison.
Les larmes, vous vous en servez beaucoup. Ce sont des larmes de quoi ? De joie, de tristesse, de colère, d'angoisse ? Il y a les larmes de crocodile aussi, peut-être que dans votre métier, ça existe pas mal.
Ça peut arriver pour, si je dois incarner le rôle de quelqu'un qui baratine sur ce qu'il est ou sur ce qu'il veut faire croire qu'il est. Ce dont je me sers beaucoup, mais c'est normal, je suis un adepte de ce qu'on appelle la méthode stanislavskienne, c'est le précurseur de l'Actor Studio. Use it, sers-toi de toi. Pour incarner cet autre qu'apparemment tu ne connais pas. Quand je dois me déchirer l'âme, comme on dit, pour employer une terminologie précieuse, bah, il faut que je trouve quelque chose qui me fasse saigner. Hein, voilà.
Et c'est quelque chose que vous allez puiser donc en vous, puisque vous vous servez de vous-même.
Oui, bien sûr.
Donc c'est quoi ? C'est des souvenirs ? C'est des douleurs d'enfance, d'adolescence ?
Oui, par exemple, j'ai beaucoup enterré mon père et ma mère en tant qu'acteurs. Ils sont partis l'un et l'autre. Alors je leur parle tous les jours, mon père et ma mère. C'est ma manière de leur faire savoir qui sont tellement vivants qu'ils sont même mon matériau principal pour incarner ce qu'on me demande d'incarner. Et puis il y a des choses qui me déchirent parce qu'elles me manquent, tout simplement. Et je sais me servir de ça, hypocritement, pour faire croire que c'est le personnage qui pleure alors que c'est l'acteur. Mais les larmes d'Arditi, on n'en a rien à foutre. Hein. Ce qui est important, c'est le personnage.
Vous dites qu'on s'en fout des larmes d'Arditi, mais c'est pas vrai parce que ça transmet aussi une émotion, parfois.
Oui, à partir du moment où on les impute au personnage, mais pas à moi. Moi, on s'en fout. Je suis là pour être quelqu'un d'autre, ou en tout cas faire croire que je suis quelqu'un d'autre. Si je pleure dans ma vie, ce qui m'arrive, c'est un autre problème, mais ça, c'est entre moi et moi.
Avec le temps, c'est de moins en moins difficile pour moi de pleurer.
Oui, c'est pas difficile.
Comment vous l'expliquez,
mais
ça?
Je l'explique parce que tout me touche. Parce que je vais revenir là-dessus, mais parce que tout ça part, tout ça passe.
Il y a une gravité qui s'installe.
Si c'est une gravité, il y a une douleur. Je passe ma vie à rencontrer mon fantôme. Il me reste beaucoup moins de temps à vivre que celui que j'ai vécu. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Beaucoup moins. En ce moment, ça m'énerve avec ça, mais qu'est-ce que je vous dis? Je vois bien que le temps qui me reste est infinitésimal. Infinitésimal. Ça me procure une certaine douleur, ça m'emmerde, ça m'embête, comme dirait Marcel Proust. Voilà. Donc,
ça vous
si
fait
vous
peur?
Voulez, non, ça me fait pas peur, ça m'embête. Mourir, je vais mourir, comme tout le monde.
Comme tout le monde.
Je vais pas passer au traviole. C'est pas grave. Si, c'est grave, mais qu'est-ce que je vous dis? La vie, c'est un prêt. Alors, à un moment donné, on vous présente la note et on vous dit, maintenant, c'est fini. Tu te barres, tu laisses la place à quelqu'un d'autre. Bon, très bien, je laisserai la place à quelqu'un d'autre, puisque c'est écrit comme ça. Mais en attendant, ce qui me reste à vivre, je m'en fous plein la gueule pour me bourrer la gueule avec la vie, parce qu'il m'en reste trop peu à vivre.
Pierre Arditi, vous restez avec nous?
Vous êtes sûr?
Ouais.
Bon,
ouais.
Je voudrais pas rendre dépressif l'ensemble des auditeurs qui m'écoutent. Non, mais c'est tellement beau, la vie, c'est merveilleux. Il faut en profiter, c'est tellement magnifique. C'est d'autant plus magnifique que ça ne dure pas. C'est peut-être ce qui en fait le prix, c'est qu'à un moment donné, elle cesse.
Clairement. Dans le rétro, on poursuit notre voyage dans le temps sur France Bleu avec Pierre Arditi.
Déborah Grunewald remonte le temps avec ses invités sur France Bleu. C'est dans le rétro.
Allez, on appuie sur le bouton. Tac. 1952, nous sommes au 1 Place Colette à Paris. On va rentrer ici à la Comédie Française. Vous êtes là avec votre père. Vous avez 8 ans.
Comment se porte Amphitryon ?
Madame, en homme de courage, dans les occasions où la gloire l'engage.
Fort bien, belle conception. Quand viendra-t-il ?
Robert Hirsch est sur scène. Il joue sosie dans la pièce Amphitryon. Robert Hirsch,
oui.
Un de vos héros d'enfance.
Oui.
J'ai été heureux. C'est ce qui me rend heureux. Mon bonheur à moi, c'est le théâtre. Voilà. Le jour où je ferai plus de théâtre, on pourra dire que je suis un homme malheureux.
Et un homme mort, surtout. C'est exactement ce qui s'est passé. Heureusement, tard. Oui, c'était mon héros d'enfance. C'était un ami. Et je dois dire que là, pour une fois, le temps a fait un joli travail. Ça nous arrive quelquefois chez les acteurs. C'est que je l'ai vu à 8 ans jouer la comédie. Et 40 ans plus tard, je suis devenu son partenaire pour jouer En attendant Godot de Samuel Beckett au Théâtre du Rond-Point. Voilà. J'ai joué avec mon héros d'enfance.
Votre père était toujours là ou pas? Il vous a vu jouer avec Robert Hirsch?
Non, je crois qu'il nous... Non, avec Robert Hirsch, non.
En même temps, valait mieux pas parce qu'il paraît que vous êtes complètement déstabilisé quand votre père est dans la salle.
Quand mon père est dans la salle, quand mon père était dans la salle, et je regrette, ça se voudrait tellement qu'il soit encore dans la salle, je n'arrivais pas à jouer.
Ouais.
Je n'arrivais pas à jouer parce que mon père, ça a été un phare dans ma vie. C'est lui qui m'a dit, très bien, bon. Et quand il était dans la salle, j'étais tétanisé. La veille du jour où il venait, c'était un triomphe. Le lendemain, on avait l'impression que la salle était vide alors qu'elle était
pleine. Ah merde.
Non, mais c'est comme ça, c'est une tradition.
C'est con pour les spectateurs.
Oui, mais bon...
Ça se voyait pas trop.
Ça se voyait pas trop pour eux, ça se voyait beaucoup pour moi.
Télétransportation. En 1962, vous partez faire votre service militaire en Allemagne. À ce moment-là, le service militaire, c'est un outil d'intégration sociale, d'éducation, de citoyenneté. Qu'est-ce qui vous a apporté, à vous ?
Alors, je vais vous dire, sans offense, Villardieu, que c'est en 1964. Et pas en 1962, parce que sinon je serais parti faire la guerre d'Algérie. Je ne l'ai pas faite, à 2 ans.
Et vous seriez plus vieux.
Et j'aurais été encore un petit peu plus vieux. Ce que ça m'a apporté, je ne voulais pas me faire réformer. Non pas que j'étais attiré par le fait militaire, mais je me suis dit non, je fais mon service militaire. Bon, au début ça a été étrange parce que j'étais comme un petit poussin sous l'aile du père et de la mère. Donc d'un seul coup, je me suis retrouvé seul, responsable de ce que j'étais, de l'adolescent que j'étais, parce qu'à cet âge-là, on est encore un adolescent.
Bon. On devient adulte,
voilà.
Logiquement.
En principe, on est censé devenir adulte. Mmh. Mais ça m'a beaucoup servi. Ce qui m'a surtout beaucoup servi, et ça m'a surtout beaucoup appris, c'est le monde autour. C'est-à-dire qu'un monde que je n'aurais jamais rencontré si je n'avais fait mon service militaire. C'est ça d'ailleurs l'intégration. Soit des mecs du populo, soit des ouvriers, soit au contraire des gens de la bourgeoisie, des gens qui ne pensaient pas du tout comme moi.
Il y a toutes les couches sociales.
Il y a tout. Mmh. Tout était mélangé et réduit, mais non pas réduit, grandi au même dénominateur commun. Et ça, pardon, mais c'est fondateur.
Ça manque le service militaire aujourd'hui ?
Un certain service militaire, je crois, oui, mais ça, on ne pourra plus le faire comme ça. Parce que 18 mois, honnêtement, c'est long. Hein. Je regrette rien, mais il y a le moment où ça m'a paru long. En même temps, j'ai rencontré encore une fois des gens, y compris des militaires. Hein. Je faisais mon service militaire en Allemagne. Donc en hiver, on était dans des camps d'entraînement des anciens nazis. Stetten, Münzingen. Il faisait, moins 30, moins 35. On était en chemisette, là, sur le bouton ouvert, avec le treillis ouvert. Sinon, on était des gonzesses. Bon, voilà, c'est ce que je veux dire. Bon, donc, j'ai appris à ne plus être frileux. Il y a eu un accident de bagnole sur un convoi dont je faisais partie. On a tendu ce qu'on appelle une antenne filaire. Donc, on s'est retrouvés comme des héros en temps de guerre pour arriver à sauver une Jeep qui s'était cassée la gueule avec des gosses dedans.
Mais donc, 18 mois? Ce serait trop aujourd'hui.
Non, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Mais moi, je pense que on l'a supprimé un peu vite. Ça aurait été bien de ne pas intégralement le supprimer parce qu'encore une fois, c'est important de savoir qui sont les autres, a fortiori quand ils ne sont pas comme vous.
Télétransportation, on y retourne.
On
bouge, on voyage. Profitons-en.
Tant que je garderai ma bosse et ma perruque, on me laissera vivre jusqu'à ma mort.
Nous sommes en 1964. Vous suivez les cours de Tania Balachova.
Ouais.
Elle est ce jour-là en train de parler du métier de comédien.
Problème fondamental c'est la timidité. Or, je ne crois qu'aux acteurs qui sont timides. Ceux qui sont le plus timides sont les plus noués. Ils parlent trop bas, ils ont des tics. Ils remuent les mains, ils remuent les pieds, ils froncent les sourcils. Je ne les entends pas. Ce n'est pas en se refermant sur eux-mêmes qu'ils expriment.
Vous étiez timide ?
Oui.
Qu'est-ce que ça provoque chez vous ? C'est la voix de...
La voix ? C'est la voix de quelqu'un qui a été très important dans ma vie et que j'ai aimé. Et voilà, oui, c'est facile de pleurer, c'est enfantin. C'est quelqu'un de très important qui enseignait la technique de Stanislavski, et c'est elle qui expliquait ça. J'ai mis 15 ans à le comprendre, hein, parce que je comprenais le principe, mais je ne savais pas comment on faisait pour appliquer
pour
le fameux principe.
Pour se servir,
principe.
En fait.
Pour se servir de soi. On
de
sait
soi
comment.
Pour incarner
on fait quoi
des personnages.
Mais quoi, on pense à la mort, alors comment on pense à la mort ouais. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Voilà. Non, mais elle avait raison. Alors, il y a une chose
sur
qui
la
est
timidité,
assez...
moi, j'aimerais vous entendre aussi. Excusez-moi parce que je vous ai interrompu.
Mais vous avez raison. Non, mais vous avez raison. Mais j'étais timide, oui. C'était un mélange pervers. Je faisais le pitre au lycée ou en classe parce que j'avais besoin de me faire remarquer par mes petits camarades. Donc, j'avais déjà besoin d'être regardé. Mais en même temps, en société ou même avec mes petites amies de l'époque, et là, j'étais malhabile, quoi. Ce qui était, encore une fois, oui, j'étais pas
mais
à l'aise.
Mais on a du mal à imaginer que vous étiez timide.
Ben oui, mais je suis toujours timide, contrairement à ce que vous pourriez penser. Oui. J'ai pas l'air comme ça.
Pas
mais...
du tout.
Non, mais je le suis quand même.
Et donc, on se rend compte que finalement, la timidité, c'est un atout pour un comédien.
Il faut en aucun cas se refermer dans une coquille qui serait la sienne. C'est-à-dire que ça inhibe. Un acteur, c'est pas fait pour être inhibé. D'une certaine manière, les vrais acteurs sont infréquentables. D'une certaine manière, et ils ont raison, ils n'ont pas de pudeur. Et ils n'ont pas à en avoir. La peur d'être ridicule est ridicule. Un acteur ne doit pas avoir peur d'être ridicule, au contraire, il doit le cultiver si on le lui demande. Ça n'a rien à voir, absolument rien à voir.
Est-ce qu'il y a justement des choses en vous dont vous n'arrivez pas à vous servir et qui vous empêchent d'incarner certains personnages ?
Alors, je vais être très vaniteux, en réalité, je vais être très orgueilleux, plus exactement. La vanité est un vilain défaut, mais l'orgueil est une qualité. Non, il n'y a rien qui m'empêche d'aller là où je dois aller, parce que une grande partie des gens que j'ai fréquentés m'ont appris que si on voulait vraiment faire du théâtre, le théâtre exigeait tout de vous, et que si on n'était pas capable de le donner, c'était pas la peine de venir, il n'y avait rien à voir.
Dans le rétro, on va poursuivre notre voyage dans le temps dans un instant avec Pierre Arditi, notre invité sur France Bleu.
Dans le rétro sur France Bleu, Déborah Grunewald.
Allez, autre époque. ...1963, vous avez 19 ans, nous sommes à Lyon, chez la mère Jean. Vous êtes assis dans le fond, le père Biolle vous prépare un lapin à la moutarde.
C'est tout.
La mère Biolle vous engueule, mais vous nourrit gratuitement pendant plusieurs années.
Ouais.
Elle veille sur vous, à ce moment-là, à Lyon, au théâtre du Coturne, avec l'acteur, metteur en scène Marcel Maréchal. Vous apprenez votre métier et ce qu'est la vie d'un acteur.
C'est exactement ça, vous savez tout sauf les dates.
Oh, mais
c'est 1960, c'est 1965. Et je vais manger chez la mère Jean, la mère Biolle. Voilà, je mange du lapin, des petits lapins cassés. C'était magnifique, cette bouffe-là. Elle disait, alors, qu'est-ce que tu veux? T'es acteur. C'est pas un métier, ça. C'est pas un métier.
Mais c'est vrai, c'est ce
elle nous engueulait,
dire.
Mais,
bah oui.
Mais c'était ma vie. Alors après, bon, évidemment, j'ai fini par faire une carrière. Elle m'appelait Monsieur Arditi. Alors, je dis, non, madame Biolle. Alors, non, là, vous allez m'appeler Pierre, hein, parce que après m'avoir nourri pendant des années, vous n'allez pas m'appeler Monsieur. Ah, bah oui, mais maintenant, j'ai dit, bah oui, vous voyez, finalement, c'est un métier. Cette période Maréchal, qui est vitale pour moi, hein, elle a vraiment contribué à me fabriquer comme acteur. Lui m'a appris une chose absolument fondamentale, c'est que quand on décide de faire du théâtre, il n'y a que ça qui compte.
Il n'y a reste, que ça qui compte
oui.
Mais
c'est-à-dire que le problème, ce n'est pas d'avoir envie d'être...
Au détriment de tout ?
De tout. Au détriment de tout. Le théâtre est une maîtresse à laquelle on doit tout sacrifier. C'est comme ça. Et j'étais d'accord. J'avais un âge où je pouvais l'être, d'ailleurs. J'avais 20 ans.
Ouais, mais à cet âge-là, mais après, ça devient difficile quand même.
Écoutez,
quand on est en couple, quand on a des gamins
quand,
et tout
oui,
ça.
Oui, eh bien, écoutez, on ne sacrifie pas tout.
Ouais.
Et en tout cas, si on sacrifie, on ne sacrifie pas de la même manière. Je ne veux pas rentrer dans les détails de ma vie, puis chacun vit sa vie comme il l'entend. Je ne suis pas un exemple particulier, mais pendant un moment, dans notre couple, avec Evelyne, qui était actrice aussi, eh bien, ça n'a pas toujours été facile, parce que, effectivement, à un moment donné, je travaillais énormément, elle ne travaillait pas forcément au même rythme que le mien, il y a des moments où elle se disait, je vais pas rester avec ce type, parce que moi, je le vois pas. On a deux couples que le nom, tu vois. Puis petit à petit, tout ça a évolué, a changé. Et maintenant, évidemment, tout ça, il y a prescription. Mais je sacrifie toujours ce que j'ai à sacrifier pour le métier, mais je sacrifierai pas ma femme.
Mais finalement, il vaut mieux être en couple avec une actrice, alors, ou quelqu'un qui fait quand même ce métier-là, non?
Moi, je n'ai pu vivre qu'avec des actrices, parce qu'elles faisaient le même métier que moi, et que par conséquent, elles comprenaient tous les tenants et les aboutissants et les mécanismes de ce métier. Quand on vit avec quelqu'un qui fait autre chose, il y a des moments où elle doit ne pas comprendre ce pourquoi le monsieur vit de cette manière-là. Donc, ça devient plus compliqué, je crois.
Bon, j'ose plus donner de date. Moi, je vais encore me planter.
Si, allez-y.
Vous me corrigez. Hein.
Oui, bah, bien sûr.
Gentiment. Hein.
Mais bien, bon. Pensez donc.
Allez. ...1976, nous sommes à une soirée du côté de Pigalle, à Paris. La jeune fille que vous aimez est jeune.
Ah.
Belle, oui. Elle est comédienne. Elle doit partir 3 jours. Avant son départ, elle vous annonce que c'est fini. Vous quittez cette soirée dévastée, vous déambulez boulevard Rochechouart, vous retournez dans l'atelier d'artiste où vous viviez et vous vous dites, j'en ai assez, je suis fatiguée.
Oui, oui, ça, la date est bonne. Oui, oui, la rupture
je
a lieu de cette
manière. Je me permets d'en parler, si vous voulez pas qu'on en parle, on n'en parle pas.
Hein. Je ne citerai évidemment aucun nom, bien entendu, puisque c'était quelqu'un de connu. Oui, il y a une rupture franche et qui intervient aussi brièvement qu'elle est brutale. Et c'est un samedi soir, il y a beaucoup de monde dans la rue et je n'entends plus aucun son. Le monde est devenu silencieux. Et je me dis, oh, puis j'en ai assez, je suis fatigué, effectivement. Et j'avale tout ce que je peux avaler comme médicament qui traîne là, bon. La mort n'a pas voulu de moi, la preuve c'est qu'on se parle. Mais enfin, bon, je suis resté gravé. Et donc, 3 semaines plus tard, alors j'étais quand même encore très marqué par cette chose-là, un ami à moi me propose de jouer dans une pièce qui s'appelle Rosencrantz et Guildenstern sont morts, de Tom Stoppard. Et à un moment donné, ils sont sur une coquille de noix au milieu de l'océan et le personnage que je joue est en face d'un autre, il s'appelle Rosencrantz, et Guildenstern, et qui lui dit, tu vas voir, mais si, on va le rencontrer, tu verras, on va le voir, Hamlet, comme ça. Et le personnage que je jouais dit, oh, écoute, j'en ai assez, je suis fatigué. Je ne m'étais même pas rendu compte que tout d'un coup, il dit ça. Et dans l'instant où j'ai prononcé ça, toute la déchirure que j'avais vécue un mois avant et qui avait failli me couper la vie est remontée à la surface. Mes yeux se sont embués.
De par cette phrase.
Oui, parce qu'elle m'a renvoyé à cette douleur de moi-même, et comme un papier calque. Et j'ai enfin compris ce que voulait dire Stanislavski. Je me suis dit, eh bien voilà, c'est ça.
Je vais me servir,
de ça. C'est-à-dire être capable de faire remonter quelque chose si intime que je le masquerai derrière le personnage, mais c'est moi, c'est à partir de moi que tout ça partira. Et à partir de ce moment-là, j'ai su qui j'étais, ce qui n'est pas rien.
Ah bah, il y en a qui mettent toute une vie et même...
Oui, il y a les gens qui ne se trouvent jamais.
Se trouvent jamais.
Là, le premier travail d'un homme ou d'une femme, c'est d'abord s'identifier et pour un acteur, c'est absolument capital.
Est-ce que pour vous, l'amour, c'est ce qu'il y a de plus dévastateur? Parce que ce jour-là, vous avez failli y passer. Est-ce que c'est ce qu'il y a de plus dévastateur dans la vie d'un homme?
Il y a beaucoup de choses dévastatrices, vous savez. L'amour en est une, ça n'est pas la seule. L'amitié trahie, vous savez, ça peut parfois être tout à fait dévastateur. Croire qu'on arrivera là où on s'est décidé d'aller, on n'y arrive pas. Et à ce moment-là, ça peut être aussi grave, on peut décider de s'arrêter parce que la vie ne sert plus à rien. Il y en a des choses dévastatrices. L'amour, ça peut être dévastateur, mais c'est tellement admirable quand on le vit qu'on lui pardonne d'être dévastateur.
À cette époque de votre vie, Pierre Arditi, ce qui vous plaît, ce dont vous avez besoin, c'est d'être regardé par les autres et d'une manière plus précise par les femmes.
Oui.
Parce que je ne suis pas à l'aise avec la vie, je le suis devenu plus tard.
Les femmes, je leur dois tout. Je leur dois tout. Elles ont tout fait pour moi.
Qu'est-ce qu'elles ont fait?
À commencer par ma mère, évidemment. Ma mère, elle a fait l'homme que je suis devenu. Mais elle a eu quelques collègues qui ont traversé ma vie et qui m'ont toujours mis en face de moi-même. Et elles ont fait pour moi cette chose absolument précieuse, qui est une phrase d'un auteur que j'aime beaucoup, il s'appelle Jean-René Huguenin, qui dit que la chose la plus importante, c'est de ne pas être dupe de soi-même. Elles m'ont permis, forcé, obligé, avec tout l'amour du monde, de ne pas être dupe de moi-même.
Mais en faisant quoi?
D'abord en refusant de me mentir, en essayant de faire mieux que une grande partie des gens de mon sexe, c'est-à-dire les hommes, de ne pas être lâches, ni avec moi, ni avec les autres, de ne pas avoir peur de regarder en face ce que quelquefois on fout sous le tapis. Elles ont toujours été bienveillantes, fermes et exigeantes pour moi, pas pour elles. Ça, y compris celle avec laquelle je vis aujourd'hui, je n'ai jamais oublié. Il y a encore certaines de ces femmes qui sont encore là, avec lesquelles j'entretiens des rapports d'amitié tendre et pour toujours. Encore une fois, ces femmes-là n'auraient pas traversé ma vie, je ne serais pas là en train de discuter avec vous.
Télétransportation. Attends, j'ai la pression.
Je vais vous dire de qui on va parler.
Dites-moi.
D'Alain René.
Ouais, c'est ça. Bingo. Première collaboration avec Alain René sur le film Mon oncle d'Amérique. Vous tournerez ensemble une dizaine de fois. Nous voici en 1993.
Oui, peut-être.
Sur le tournage
de Smoking.
Oh, yes. Oui.
Et pourquoi je peux pas lui emprunter un pantalon?
Oh, t'es bouché.
Oh, quoi, je lui rendrai. Je vois pas où est le problème, hein, Sylvie. Cette espèce de grosse pute de Rowena. Elle va voir comment je m'appelle, hein. Je vais écrire son numéro de téléphone sur les pissotières de la gare, ça lui apprendra.
Smoking, no smoking vous permettra de décrocher le César du meilleur acteur. Oui. Vous dites, j'ai eu deux autres pères que mon père. Un père de théâtre, on en parlait tout à l'heure, Marcel Maréchal, et un père de cinéma, Alain René.
Oui.
C'est quoi le rôle du père qui n'est pas finalement le père ?
Le père, c'est quelqu'un qui vous prend par la main et qui vous conduit là où vous n'avez même pas idée de l'endroit où il faut aller. Maréchal m'a emmené par la main pour m'ouvrir les portes du théâtre, qui est le théâtre public, en me faisant découvrir, encore une fois, que quand on décide de faire du théâtre, le reste n'a pas d'importance. Et Alain René, lui, il m'a emmené dans des zones de moi-même dont j'ignorais tout. Il y a deux catégories de metteurs en scène, en particulier au cinéma. Les voleurs et les violeurs. Les violeurs, c'est ceux qui décident de vous arracher de gré ou de force ce qu'ils veulent obtenir de vous, qui, une fois qu'ils vous l'ont arraché, vous jettent parce que ça ne leur sert plus à rien. Les voleurs, ce sont des gens qui voient ce que vous contenez, même si vous l'ignorez, qui le prennent, qui vous le mettent devant vous, en vous montrant que vous savez être ça, et qui vous le redonnent pour que vous le mettiez dans votre valise d'acteur et qui vous serviront pour la suite.
C'est pas vraiment un voleur.
Si, c'est un beau voleur.
Parce qu'il vous le rend quand même.
Mais bien sûr, il vous le rend. Ce qui est, vous savez que ce que vous donnez est à vous pour toujours. Personne jamais ne pourra vous le reprendre. René m'a toujours regardé comme un objet précieux, que je ne considérais pas être moi. Mais à force d'être regardé comme ça par cet homme-là, j'ai fini par croire que je l'étais. Et quand il est parti faire un tour dans les nuages, ça a été extrêmement difficile pour beaucoup de monde, y compris pour sa femme, Sabine évidemment, mais il y a quelque chose qui n'arrivera plus jamais, que j'ai vécu, que j'ai eu la chance de vivre avec cet homme-là, et que je ne peux vivre que sur des souvenirs, mais plus sur un avenir.
Pierre Arditi, c'est environ 200 films et séries, près de 70 pièces de théâtre, des collaborations avec de grands dramaturges, de grands réalisateurs, de grands acteurs. Aujourd'hui, c'est Fallait pas le dire au Théâtre de la Renaissance à Paris. Et c'est en ce moment même un voyage dans le temps sur France Bleu, c'est dans le rétro.
France Bleu, dans le rétro.
Pierre Arditi, vous
je
dites...
Quand j'ai peur chaque fois que vous dites ça. Pierre Arditi, vous êtes vraiment un... Con. Ah, pas,
non,
bon,
non, mais j'attends la fin. Mais
je pensais pas, alors on m'avait dit que j'étais...
mais ah, j'attends la fin.
Oui, bah, je comprends, bien sûr, c'est normal. Alors, dites-moi.
Vous dites, ce à quoi je crois le plus au monde, c'est le rêve. C'est pour ça que je suis devenu acteur. Alors, les rêves, on les fait notamment la nuit. Télétransportation. Nous sommes chez vous, on va ouvrir cette porte. Nous sommes dans votre chambre. Votre femme ronfle.
Non, elle ronfle jamais, ma femme. C'est moi qui peux ronfler éventuellement, mais pas elle.
Non, vous vous ronflez pas parce que vous dormez pas, en fait.
Oui.
Vous ne voulez pas dormir la nuit parce que la nuit, c'est la mort. Et je n'ai pas l'intention de mourir tout de suite.
Oui. Non, c'est parce qu'un jour, j'ai demandé à ma mère, c'est quoi la mort? J'avais 7 ans. Et ma mère, la femme de ma vie, m'a répondu, mais mon chéri, c'est rien la mort, c'est rien du tout, c'est comme quand tu dors mais tu rêves plus. Pensant me rassurer, cette femme m'a traumatisé pour le restant de mes jours, et donc j'ai décidé, j'en rêve plus, je ne dors pas comme ça, je ne serai pas pris en flagrant délit de ne plus pouvoir rêver, voilà.
Mais ouais, mais alors du coup, si vous ne dormez pas, vous ne rêvez pas.
Elle me l'a fait, je savais qu'elle me le ferait. Du coup, oui, vous en avez pas fait beaucoup, c'est le premier, mais c'est bien.
Non mais... Vous ne rêvez pas. Si vous ne dormez pas, vous ne rêvez pas. Alors que la chose la plus importante pour vous, c'est de rêver.
Mais bien sûr que si, on peut rêver.
Non, mais je fais exprès de poser cette question parce que vous allez me le dire. Alors, vous rêvez comment ? À quoi ? Vous rêvez à quoi ? Vous rêvez comment ?
Je laisse mon esprit vagabonder, les yeux ouverts. J'ai pas besoin de les fermer pour ça. À partir du moment où je sens le monde autour de moi battre, ça veut dire que je suis encore vivant. Si je suis encore vivant, c'est déjà un rêve en soi. J'imagine des choses qui m'arriveront ou qui ne m'arriveront pas, qui sont de préférence des choses agréables et délicieuses. Les yeux ouverts, on n'est pas obligé de fermer les yeux.
Par exemple, vous êtes en train de rêver avec nous dans ce studio.
Bien sûr. Pierre Arditi, vous êtes décidément très con. Non, vraiment. Putain.
Le cinéma, le théâtre, c'est une projection de la vie, de la société, d'une époque. On y aborde des sujets universels, des questions existentielles, télétransportation. Petit tour en 2011.
Les choses vont pouvoir repartir, mon amour, hein, sur des bases saines.
Sans mensonge.
Sans mensonge. Ah, la vérité. Il n'y a que ça de vrai.
La vérité, pièce de Florian Zeller, auteur aussi en 2014 de la pièce Le mensonge. Vous avez joué dans les deux. Oui. Vous êtes partisan du principe selon lequel la vérité, il faut parfois la dire ou parfois la taire.
Bah écoutez, c'est à géométrie variable. J'aime pas beaucoup mentir, moi.
Sans blague.
Oui, non, j'ai appris à ne pas trop mentir. Mais en même temps, pour employer une expression qui vaut bien du coup, il y a des moments où dire la vérité est d'une violence et d'une inutilité flagrante. Après, il y a les moments où la vérité doit être dite et elle ne peut pas être enfouie. Et il y a des moments... Il ne faut pas mentir sur l'essentiel et le reste, quand c'est du détail, quelle importance.
C'est quoi l'essentiel alors finalement?
Quand on dit à une femme qu'on l'aime, si c'est faux, il vaut mieux lui dire qu'on ne l'aime pas et partir. Voilà, ça fait partie de la lâcheté. Vous voyez, ouais. Je peux vous en parler en connaissance de cause parce que dans mon sexe, à moi, on est champion du monde, hein, les mecs.
C'est plutôt un défaut masculin, la lâcheté.
Oui.
En amour, en tout cas.
Les femmes ne sont pas lâches.
Ouais.
Les femmes ne sont pas lâches. J'ai toujours été frappé par ça, en tout cas dans la relation amoureuse. Quand la relation amoureuse n'est plus digne d'être une relation amoureuse, elle scie la branche, y compris sur laquelle elles sont assises. Ça les fait souffrir, mais elle la scie courageusement en attendant de trouver une relation qui sera plus prometteuse. L'homme, il attend que la branche pourrisse, parce qu'il ne le dira pas, il se débrouille. Mais non, ma chérie, aussi. Vous savez, je suis tellement narcissique, moi. Je me suis sauvé de situations terribles. Par exemple, j'étais joueur. Et joueur à un point où j'aurais perdu ma vie si j'avais continué.
Ah, une addiction, quoi.
Oui, plus que ça, oui. Bon, je serais devenu un gangster, peut-être, même pour trouver de l'argent pour jouer. Je me suis arrêté net. Je me suis regardé un soir, après avoir tout perdu dans la glace, j'étais défiguré. Vous savez, comme le portrait de Dorian Gray. Tout d'un coup, le visage devient un visage de vieillard. Ben, j'étais fissuré, rabougri, comme si on m'avait boxé. Et c'était moi. Et je me suis dit, non, ça, c'est pas moi. Je suis trop moche, là. Et je me suis arrêté net. Ça peut sauver d'un certain nombre de choses, le narcissisme, quand il est employé à juste dose.
Télétransportation. Taisez-vous, hein.
Vous êtes venu, j'imagine, pour Pierre Arditi. Comme toujours. Vous moquez pas mal de déplaire à une seule condition. Continuez à être aimé. Vous voulez être aimé. Et je peux comprendre ce sentiment. Et je veux ici vous rassurer. Pierre Arditi, vous êtes aimé.
25 oui, c'est janvier le président 2017. Hollande. Ouais. Oui. Hollande, vous êtes fait officier de la Légion d'honneur. Ouais. À qui ou à quoi vous avez pensé à ce moment précis?
À mon père et à ma mère.
À ce qu'ils auraient
mère,
pensé
d'ailleurs, plus qu'à mon père encore.
À ce qu'ils auraient pensé.
Non, je me suis dit que là où elle est, si elle est quelque part, mais elle est là en tout cas. Bon, elle devait être fière. Voilà, simplement. C'est toujours pareil, il y a des gens qui aiment ça, des gens qui s'en foutent, des gens même qui méprisent, oui. Ou d'autres pas, ils ont le droit d'ailleurs, c'est tout fait. Moi j'aime bien ça, j'aime bien que je suis un républicain pur et pas trop dur, j'espère. Je crois à ça, je crois, alors la Légion d'honneur, bon, là, le mérite c'est très beau aussi, c'est un très bel ordre. J'ai toujours besoin d'être regardé ou d'être reconnu. Bon,
ben d'être voilà. Aimé quoi en fait.
Il a parfaitement défini l'histoire, j'ai besoin que les autres m'aiment. Et j'essaie de faire ce qu'il faut pour ça. Voilà, c'est peut-être condamnable, mais je ne suis qu'un faible homme et je ne peux pas m'empêcher d'aimer ça. Ça disparaîtra avec moi, pas de problème.
4 mois plus tard, Emmanuel Macron devient président. La fin de son mandat approche. Je vais vous poser une question en reprenant vos mots.
Oui.
Vous dites, le problème, c'est de savoir ce que la classe politique met en œuvre pour que les hommes aillent moins mal.
Oui.
Ma question, elle est simple. Est-ce qu'Emmanuel Macron a fait en sorte que
ses concitoyens
aillent
moins mal?
Ouais.
Il a fait ce qu'il a pu et il n'a pas fini. Voilà. Si vous voulez que je vous donne ma réponse, je n'ai pas l'habitude d'avoir une langue de bois. Moi, je ne me présente pas aux élections. Voilà. Il n'a pas tout fait. Il y a des choses qu'il a pas faites. Quand je vous parlais tout à l'heure, dans cette diatribe échevelée et livide au milieu des tempêtes, du fait que qu'est-ce qui est plus important que de faire que les femmes et les hommes de ce pays, quand ils travaillent, gagnent leur vie, c'est-à-dire gagnent le droit de vivre, que l'hôpital ne s'effondre pas, que l'éducation des enfants, c'est-à-dire des femmes et des hommes de demain, soit en état de marche, et que non seulement les parents éduquent les enfants, mais que les enseignants participent à cette éducation. Moi, j'ai connu des enseignants qui ont parfait mon éducation, qui était très bonne de mon père et de ma mère. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que ça? Rien. Le boulot d'Emmanuel Macron, s'il est réélu, c'est d'essayer de se rapprocher le plus possible de ce que je raconte en ce moment. Si c'est pas lui, espérons que les autres le feront. Voilà, je vous ai dit ma détresse et ma désillusion et ma tristesse par rapport au démembrement d'une gauche que je vois disparaître d'une manière fantomatique. Et je n'ai jamais beaucoup fréquenté les milieux extrêmes, qu'ils soient de droite ou de gauche, quoique certains mouvements de gauche auxquels j'ai appartenu quand j'étais plus jeune, que ce soit la Ligue communiste, ou Trotsky, j'y ai fait partie, et je ne la renie pas, cette période. Voilà. Maintenant, il y a des gens auxquels je n'adhère absolument pas, pour être tout à fait clair avec moi-même. Je vais voir, j'aime beaucoup la parole du candidat communiste, Fabien Roussel, qu'on est en train de découvrir, que je trouve un sympathique, deux qui parle plutôt bien du peuple. S'il n'y a aucun danger, il n'est pas impossible qu'au premier tour, je vote pour lui. Si
ma question, c'était pas de savoir pour qui vous votiez.
Non, mais je préfère le dire, je n'ai absolument rien à cacher. Ouais. Sinon, très honnêtement, je ne sais plus qui disait ça, mais on ne va pas prendre un président débutant tous les 5 ans. Macron n'a pas fait tout ce qu'il y a à faire. Il en a fait une partie, n'en déplaise aux esprits chagrins. Je suis désolé, il y a des choses qui ont été faites et non des moindres. Il faut continuer le boulot en tirant un peu le bord, un peu plus, à mon sens, vers la gauche à laquelle je souscris plus facilement. Voilà, c'est comme ça, je vous ai donné mon sentiment. Et chacun fera comme il voudra, je n'ai de leçons de morale ni de politique à donner à personne.
Je me rappelle, Pierre Arditi, un jour dans l'émission On est en direct sur France 2, vous disiez à Cyril Hanouna, on aura les héros qu'on mérite.
On a les héros qu'on mérite, oui.
Et on finira par créer des générations qui finiront par prendre un spot publicitaire pour une tragédie de racines.
Oui.
Est-ce que vous pensez qu'on est plus bête, moins intelligent qu'avant ? Il y a des études qui ont démontré que le QI ne cessait de diminuer depuis quelques années.
Oui,
est-ce que c'est ce que vous pensez ?
J'aurais tendance à ne pas être trop optimiste en ce moment sur le fameux QI en question. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai dit qu'on finirait par créer des générations qui prendront un spot publicitaire pour une tragédie de racine. C'est une boutade, évidemment. Il y a une sorte de tic aujourd'hui et qu'il faudrait que tout soit ludique. Alors moi, je veux bien que tout soit ludique, c'est plus marrant de se marrer plutôt que de pas se marrer. Mais enfin, la culture, apprendre, le savoir, l'histoire, on n'est pas obligé de faire ça entre deux éclats de rire. 8, ha ha ha, plus 3, ha ha ha, ça fait combien ? Ha ha ha, je ne sais pas. Bon, donc voilà, aucun intérêt. Je suis un peu sectaire là-dessus, et en tout cas, je pense que, comme le disait Marx, c'est la culture, c'est ce qui permet aux hommes de s'emparer du monde. Alors, je suis pour ça que je suis à la fois défenseur de la classe enseignante, qui fait tout ce qu'elle peut, et pas tout ce qu'elle veut. Elle fait tout ce qu'elle peut avec ce qu'elle a. Pour moi, c'est absolument fondamental, mais moi, j'ai été élevé dans un milieu d'intello fauché, alors j'ai pas été privé de culture.
Mais c'est à cause de quoi justement ? C'est à cause de la dégradation du système éducatif, le déclin de l'éducation, les réseaux sociaux, la télé-réalité, c'est quoi ?
Il y a une partie de responsabilité avec l'éducation. Maintenant, très souvent par exemple, il y a beaucoup de femmes seules qui élèvent leurs enfants. Alors, quand il y en a 2 ou 3 ou 4, ou même quand il n'y en a qu'un seul, il faut qu'elles travaillent, il faut qu'elles gagnent leur vie, il faut qu'elles gagnent la vie. J'ai vu des reportages absolument séismiques de femmes seules qui se noient en essayant de sauver leurs enfants. C'est absolument inadmissible. Qui peut faire l'éducation de l'enfant à ce moment-là ? Personne. La mère est orpheline. Elle ne peut s'en remettre qu'à l'éducation nationale, qui n'est pas forcément toujours faite pour, à ce point-là, élever les enfants. Elle peut les guider en partie, mais ce ne sont pas les parents. Il y a un boulot énorme à faire là-dessus, absolument colossal. Je ne veux pas dire que tout était mieux avant,
parce que ça ferait vieux con.
Parce que surtout, c'est faux. La seule chose qui était mieux avant pour moi, c'est que j'étais plus jeune. Et la jeunesse, c'est un trésor précieux qui malheureusement se barre au fil des ans. Mais en même temps, encore une fois, voilà une belle répétition. La prochaine fois que vous dites du coup, vous pouvez me gifler parce que je fais la même chose que vous.
Ouais. Fais attention, je vais gifler.
Si vous voulez, il me semble. Mais parce que c'était un autre monde et une autre époque, les réseaux sociaux n'existaient pas, la mondialisation n'existait pas. Il me semble qu'on pouvait prendre plus de temps, et puis les parents qui travaillaient quand même. Aujourd'hui, il y a l'état de parents qui ne travaillent pas, dont les enfants voient leurs parents qui ne travaillent pas. Bon, ben, je suis désolé, mais ça n'a rien à voir. En 1950, c'était le lendemain de la guerre, tout le monde travaillait. Il y a eu les 30 Glorieuses, il y a eu tout ça. C'est pas le même monde. Ce monde-là a disparu. Il a changé. Donc ça crée d'autres choses qui sont pas forcément mieux que ce n'était il y a 50 ans, mais c'est comme ça, c'est mon opinion et je la partage.
Pierre Arditi est notre invité, il est au Théâtre de la Renaissance, c'est à Paris, la pièce s'appelle Fallait pas le dire et il est avec nous dans le rétro sur France Bleu.
Dans le rétro sur France Bleu, Déborah Grunewald.
Et aujourd'hui nous sommes avec Pierre Arditi, on va maintenant embarquer pour le futur Destination 2032. Pierre Arditi, vous êtes là. Ah si, mais si. Mais qu'est-ce que vous racontez? Ben 87 ans, c'est possible, excusez-moi. Hein.
C'est insupportable cette émission. C'est vraiment pour faire chier l'invité, j'aimerais comprendre.
Vous êtes là, assis, seul, face à vous-même. Vous repensez au temps qui passe, à votre vie, à ceux qui sont là et ceux qui sont partis. Qu'est-ce qui vous manque en 2032 du temps passé?
Il manquera sans doute que mon cœur d'ailleurs, mais mon corps surtout, ne bougera plus de la même manière s'il bouge encore. Ce qui n'a l'air de rien, mais ce qui est terriblement triste. Parce qu'il y a une manière de traverser la vie physiquement, à laquelle je crois, et ce sera sans doute plus compliqué pour moi à 87 ans, peut-être que je tiendrai encore le coup, faut voir. J'avais été frappé, je fais un coq à l'âne une fois, parce que j'avais rendez-vous avec Alain Delon il y a quelques années, et très gentiment, il m'avait proposé de me raccompagner pour récupérer Evelyne, ma femme. Nous avons marché, et du coin de mon œil, sans le regarder, je le voyais. Et je le voyais marcher et traverser l'espace, il avait une sorte de cache poussière comme ça, magnifique, qui volait comme ça. Naturellement, il était dans le bon sens du vent, parce qu'Alain Delon n'a jamais le vent contre, il a toujours le vent avec, c'est-à-dire il a le vent contre pour sa chevelure, alors que moi je l'ai toujours comme ça, c'est comme ça, il n'y a rien à faire, c'est comme ça, c'est ce qui fait la différence, pas seulement. Et je le regardais du coin de l'œil, Delon, et c'était un ange. Ses pieds ne touchaient pas le sol, et il avançait comme ça élégamment, et je me suis dit, ben oui. C'est normal ce qui lui arrive. Il y a quelque chose que nous n'aurons jamais. Eh ben voilà. Alors à 87 ans, parce que lui, il ne les avait pas à l'époque. Comment je serais à 87 ans? Je marcherais mal. J'espère que ça sera encore en entier, mais allez savoir, j'en sais rien. Ça me fout la trouille, oui. L'Alzheimer, je suis cerné par des gens qui en ont, et qui sont parfois plus jeunes que moi. Je regarderai le monde autour, si je peux encore le voir, si j'ai pas perdu la vue. Mais c'est assez pessimiste, en réalité.
J'allais dire, c'est déprimant. On va passer à autre chose.
Non, mais on va pas passer à autre chose, si vous voulez. Bon, voilà. J'ai pas envie de savoir. Peut-être que je ne serai plus là en 2032, allez savoir. J'en sais rien. Je sais que, de toute façon, il n'y a pas des masses de temps. 87, c'est déjà pas mal. Si je vais jusque là, on verra bien dans quel état je suis. Ça, c'est pas emballant. Je préfère penser à ce qui va m'arriver dans l'heure qui vient.
Eh bien, écoutez, on va faire une dernière télétransportation, voyage. Oui. C'est parti. Nous voici en 2023.
Ah,
Paris,
acceptable.
6e arrondissement. Au coin de la rue, vous croisez cette femme, blonde, les cheveux courts et bouclés. Elle sourit. Vous le savez, elle a une façon magnifique d'aimer. Cette femme, c'est votre mère. Vous étiez persuadé depuis toujours que vous la recroiseriez au coin d'une rue. Ce jour est arrivé. Elle est là. Qu'est-ce que vous lui dites?
On ne sait pas. Maman. Peut-être. Je ne la croiserai pas dans le 6e arrondissement. Peut-être dans le 9e, c'est-à-dire l'endroit où quasiment j'ai passé les 20 premières années de ma vie. Peut-être aussi dans le 17e, qui était l'endroit où vivait ma grand-mère et où on allait de temps en temps, où elle venait aussi. J'ai toujours eu l'impression que c'est dans ce périmètre-là que je la recroiserai. Mais enfin, vous savez, je la croise tous les jours. Tous les jours, je lui parle. Tous les jours, elle est là, comme mon père d'ailleurs. Ça s'efface pas. J'ai pas besoin d'aller au cimetière. D'ailleurs, je n'y suis jamais allé. Je veux pas savoir. Non, je lui dirai maman, peut-être, mais d'une manière qui résonnera d'une manière différente que celle que je peux avoir quand je le dis comme ça devant vous, parce que bon, ça semble se perdre dans les nuages, ce maman là, alors que peut-être là, pour une fois, il atteindrait quelqu'un, ma mère.
Il ne faut pas pleurer sur ce qui n'est plus. Il faut se réjouir de ce qui a été.
Oui. C'est Jean-Louis Trintignant qui a dit ça, à l'enterrement de sa fille.
De quoi vous vous réjouissez aujourd'hui, Pierre Arditi?
D'être vivant. Et je me souhaite de l'être encore un moment. Voilà, souhaitez-le-moi à moi aussi. Et d'être vivant dans le meilleur état possible. Parce qu'on a fait beaucoup de progrès sur la durée de la vie, mais pas forcément sur la qualité de cette durée. Je suis bien placé pour vous en parler, parce que je suis dans mon entourage cerné par ça. Pas moi, mais des proches. Et ça, c'est terrible. J'ai toujours dit que je ne me laisserais pas aller là, si jamais ça m'arrivait.
C'est vrai?
Ah oui, je ne me laisserais pas aller là, non.
Ah ouais?
C'est très facile, vous savez, de s'arrêter de vivre. Sans fortin, ce n'est pas la peine de prévenir la terre entière. Il y a 3-4 bons médicaments, prenez ça, que je ne citerai pas sur cette antenne. Et puis vous pouvez foutre le camp en n'emmerdant personne et en laissant un petit mot, en expliquant qu'on est allé faire un tour dans les nuages et qu'on est quelque part dans la tête et dans le cœur des gens.
Vous faites chier, hein. On va quand même pas terminer là-dessus.
Vous faites chier. Quel langage pour une jeune fille.
Mais
cette émission, c'est une gargote. Enfin, c'est hallucinant, mais c'est dantesque. C'est ça la radio publique, mais quelle honte! Ah
bah, terminons là-dessus.
Mais voilà, voilà, c'est ça. Mais vivement la privatisation. Ah là 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 là.
Merci Pierre Arditi. Cher
Grunewald, il est très joli votre nom.
Merci beaucoup Pierre Arditi.
Ça m'a fait très plaisir de discuter avec vous. Et vous êtes absolument adorable, intelligente, gracieuse, éclairée, éclairante. Toutes les émissions que je faisais étaient comme ça, j'irais beaucoup mieux. Mais il y en a quelques-unes qui sont nettement moins bien. Quelquefois, je suis un peu comme Mastroianni à qui on avait dit un jour, je ne sais plus où il était, puis dans quelle émission où il se faisait chier. Et alors, il dit, mais alors, monsieur Mastroianni, pourquoi vous êtes venu? Il m'a dit, c'est mon producteur qui m'a dit qu'il fallait que je vienne. Alors, je suis venu, voilà, bon, c'est tout.
Bon, vous reviendrez alors.
Mais demain matin. Super. D'ailleurs, on a rendez-vous demain matin. C'est à quelle heure la reprise de la gargote?
Mais non, là, vous allez au théâtre en plus.
Ah bon, chez le théâtre, voilà. D'accord.
Fallait pas le dire, c'est une pièce de Salomé Lelouch avec donc Pierre Arditi et Evin Bouix au Théâtre de la Renaissance
et
à Paris.
Et je précise quand même que la mise en scène est de Salomé, mais elle est aussi de Ludivine de Chastenay.
Voilà.
Qui a beaucoup collaboré à cette mise en scène.
C'est drôle et grinçant, divertissant et enrichissant. Le duo Arditi-Bouix, c'est tellement juste qu'on a l'impression de partager leur vie. Le temps du spectacle, le plus dur finalement, c'est de quitter la salle. Bien qu'en partant, on aura retenu 2-3 petites phrases à ressortir pendant un dîner ou une soirée dans le rétro. Cette émission et les précédentes, vous les retrouvez en podcast sur l'appli Radio France. Passez un bon week-end. Rendez-vous la semaine prochaine, 14h. Prenez soin de vous. Salut.
Salut. Je serai là, hein, vous inquiétez pas.
Oui, j'espère.